Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast de Radio Compétences. Dans cette édition, nous allons nous intéresser à la certification professionnelle de A à Z. Pour ce faire, nous sommes avec Marine Grimaldi et Goulven Drumaguet, tous deux instructrices et instructeurs de la direction certification professionnelle. Alors Goulven, avant toute chose, c'est quoi la certification professionnelle ?
La certification professionnelle, dans le langage courant, elle est synonyme de diplôme. Elle englobe les diplômes, les titres à finalité professionnelle, mais aussi les certificats de qualification professionnelle. Elle accompagne l'individu tout au long de sa vie. Certificat de naissance, certificat de mariage, certificat de divorce ou de décès, mais aussi certificat d'immatriculation. La certification professionnelle, ou la certification, ça atteste qu'un individu est, à un instant T, dans un état ou dans une situation qui est conforme à une référence décrite et donnée. Donc, la certification professionnelle, ça désigne l'acte par lequel un organisme certificateur atteste qu'une personne a bien acquis, par la formation initiale ou continue, ou par son expérience professionnelle, un ensemble de compétences et d'aptitudes nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'un emploi clairement identifié. Donc, ce n'est pas juste la formation, la certification professionnelle. Ça contribue clairement à l'adéquation et à la mise en cohérence entre la demande et le besoin en compétences. Et plus globalement, la certification professionnelle, ça constitue un repère social fondamental. C'est une garantie pour les actifs de sécuriser leur parcours professionnel, de leur permettre une insertion professionnelle aussi, de reconnaître leurs aptitudes, de leur permettre de la mobilité en termes d'accès à l'emploi, d'évolution de carrière. Et puis aussi, il faut se le dire, la certification professionnelle, pour les individus, ça autorise des financements. Et c'est parfois même indispensable pour accéder à certains types de financements. On pense notamment au CPF. Pour les employeurs, également, c'est un repère stable en matière de recrutement, puisque c'est un signal de qualité. Pour les organismes de formation, ça les oblige à adapter leur contenu aux compétences et aux besoins exprimés par les secteurs économiques. Et puis finalement, pour la collectivité tout entière, parce qu'un dispositif stable et fiable de certification, c'est quand même la garantie d'avoir des diplômes et des contenus de certification qui soient adaptés aux besoins en compétences socio-économiques.
Dans quel contexte, Marine, s'inscrit la certification professionnelle chez France Compétences ?
Il faut revenir en fait à un des objectifs de la réforme de septembre 2018, à savoir de mettre en adéquation les compétences des personnes et les compétences qui sont requises par les entreprises pour une meilleure compétitivité du pays et une sécurisation des parcours professionnels des citoyens. Le moyen d'atteindre cet objectif, c'est la régulation de l'offre de certification professionnelle à travers plusieurs leviers. D'abord, la qualité de ces certifications dans leur réponse à un besoin du marché. Ça doit bien répondre à un besoin qui est exprimé par les entreprises, par le marché du travail. Le financement du CPF qui est conditionné à l'enregistrement aux répertoires nationaux, donc au répertoire national des certifications professionnelles et au répertoire spécifique. Et enfin, la gestion de ces répertoires nationaux par France Compétences. Et c'est en particulier sur ce dernier point que la direction de la certification professionnelle intervient. Notre direction intervient par plusieurs moyens. D'abord, en nourrissant l'écosystème, par exemple en publiant des notes de doctrine, mais c'est aussi en échangeant et en communiquant auprès des grands réseaux d'organismes, auprès des ministères, auprès des branches professionnelles, avec par exemple des journées de travail ou des réunions collectives ou bilatérales. C'est aussi en contribuant à l'enregistrement de droits. Et c'est aussi en instruisant et en enregistrant les certifications professionnelles qui relèvent de la demande. Enfin, pour pouvoir parfaitement répondre à la question, il faut savoir que la direction de la certification professionnelle s'est organisée pour pouvoir répondre de manière efficace à cet enjeu à travers la mobilisation d'instructeurs sectoriels et ou ministériels pour développer une expertise sur des secteurs et sur des métiers, au travers d'un pôle dédié à l'instruction du répertoire spécifique, donc répertoire spécifique qui vise notamment des compétences transversales ou complémentaires à un métier. Mais c'est aussi des personnes qui sont référents thématiques, par exemple sur l'enregistrement de droits, notre système d'information, et également des personnes qui sont là en service support pour toute la gestion, par exemple, administrative.
Alors, Goulven, quel est l'itinéraire d'un dossier de demande de certification professionnelle au sein de France Compétences ?
L'itinéraire du dossier au sein de France Compétences, il est un peu distinct selon les répertoires et également selon la voie d'accès. Pourquoi la voie d'accès ? Parce que France Compétences assure la tenue de ces deux répertoires en traitant deux voies d'accès d'enregistrement. L'enregistrement de droit qui concerne pour le RNCP les diplômes délivrés au nom de l'État, c'est-à-dire des diplômes qui ont reçu en amont l'avis conforme d'une commission paritaire consultative. C'est aussi l'enregistrement de droit en ce qui concerne le répertoire spécifique pour les habilitations, donc celles qui sont établies par les ministères et donc des habilitations qui conditionnent l'exercice de certaines activités professionnelles et donc très clairement en lien avec des réglementations spécifiques. Et puis, l'enregistrement sur demande, donc qui est prévu pour le RNCP et pour le répertoire spécifique. Et là, il s'adresse aux organismes de formation, aux écoles, y compris les universités pour les DU, hein, et également pour les ministères n'ayant pas sollicité l'avis d'une CPC. Et donc, c'est ce qui représente, dans sa plus large partie, le travail de l'instructeur. Et donc, pour l'ensemble de ces procédures, France Compétences, et donc notre direction, apprécie la conformité des certifications aux attendus formels de la loi, référentiel, découpage en blocs de compétences, exercice d'un ou de plusieurs métiers en lien avec la certification. Donc voilà pour les voies d'accès. En ce qui concerne le chemin, donc pour répondre plus précisément au parcours d'un dossier quand il nous est adressé, il suit un parcours en 7 étapes. Alors la première étape, c'est l'étape de la recevabilité. Donc c'est le premier contact de l'organisme avec notre direction. Et la recevabilité, c'est l'étude de la complétude du dossier. Autrement dit, est-ce que le dossier justifie des éléments constitutifs d'une demande d'enregistrement au répertoire national ou au répertoire spécifique ? Est-ce que ce dossier est constitué des pièces et des preuves qui vont en permettre l'instruction ? La deuxième étape, donc, est bien l'instruction. Et l'instruction, c'est l'analyse, l'examen fin, technique et méthodique d'un dossier et dans sa globalité. Certains dossiers font plusieurs centaines de pages. On a parfois des preuves, des tableaux d'insertion qui sont sur plusieurs dizaines de pages. Et l'instructeur a la responsabilité d'examiner, d'instruire, d'observer le dossier afin de préparer les travaux de la commission et de permettre aux membres de la commission d'apprécier les éléments du dossier, donc au regard soit des 9 critères du RNCP ou des 6 critères du RS. Et donc pour cela, on échange avec les ministères, les branches, les observatoires, les institutions, et on est en charge de recueillir les éléments de contexte, les éléments réglementaires aussi parfois, formels et factuels, qui sont liés au projet de certification. La troisième étape, c'est l'étape de la supervision. Lorsque l'instructeur a fait le tour de son dossier et certains de ses éléments d'observation, il les transmet au superviseur. Et l'étape numéro 3, donc celle de la supervision, c'est le contrôle des rapports d'instruction et c'est une étape qui contribue aussi à l'harmonisation des pratiques entre instructeurs. La 4e étape est celle de la préparation et de la programmation de l'ordre du jour de la commission. Et ça, c'est un travail administratif très rigoureux, notamment de la part de l'assistante de la direction. Et ce travail vise à organiser la commission tout autant pour en convoquer les membres que pour mettre à leur disposition les dossiers, bien entendu accompagnés de nos rapports d'instruction. La 5e étape, c'est le jour J. C'est un grand moment hein, tous les mois pour nous tous. Donc, c'est la tenue en séance plénière de la commission, avec en moyenne 180 dossiers, dont une partie de 180 dossiers qui sont mis au débat des membres. Et donc, la commission, à l'issue d'un vote qui est orchestré par la présidente, elle peut se dessiner sur plusieurs scénarios. Soit ajourner le dossier, la commission considère qu'elle n'a pas suffisamment d'éléments pour apprécier pleinement le dossier et pour se prononcer. Et donc, elle propose un ajournement et en général, on voit revenir les dossiers 1 ou 2 mois après. Elle peut émettre un avis de refus d'enregistrement quand elle considère que le dossier ne répond pas aux attendus d'une certification professionnelle. Elle peut émettre aussi, et là c'est le meilleur des scénarios, un avis favorable à l'enregistrement et auquel cas elle va confirmer le niveau, le libellé de la certification et puis surtout la durée de cet enregistrement. La durée maximale de 5 années, mais elle peut être réduite et limitée à 2 ou 3 années et parfois même 1 année. Il s'agit alors de donner un signal de vigilance et parfois aussi d'encouragement aux organismes. La 6e étape, c'est la décision du directeur général, qui se traduit soit par une décision mise en ligne sur le site Internet, en cas d'avis favorable, soit lorsque la décision est confirmée en refus, il s'agit d'un courrier individuel qui sera notifié aux organismes. Et puis enfin, une septième étape qui est un peu moins visible peut-être, mais qui prend aussi beaucoup de temps dans le travail des instructeurs, et bien c'est le service après-vente. Il faut communiquer auprès des organismes les avis, qu'ils soient favorables ou défavorables, et faire un peu de pédagogie aussi parfois. Et puis après, il y a un travail aussi un peu en sous-marin de publication des fiches, RNCP ou répertoire spécifique, puisqu'on est en charge de garantir la qualité du contenu éditorial de ces deux répertoires nationaux.
Mais alors, en cas de refus, que devient ce dossier ?
L'organisme va redéposer un dossier dans sa totalité, c'est-à-dire qu'on considère que le dossier a été instruit, il portait un numéro, il était décrit dans une certaine situation avec des éléments, donc on notifie ce refus au déposant, et là, deux situations, soit le déposant renonce, parce que parfois certains dossiers qui nous sont présentés n'ont pas vocation à devenir certifiant, ça peut être de très bonnes formations, hein, mais qui n'ont pas vocation à devenir certifiante, auquel cas l'organisme soit renonce, soit s'associe à un réseau d'organismes certificateurs ou à un autre organisme certificateur dont il deviendrait partenaire, soit il redépose un dossier. Et s'il redépose un dossier, eh bien, il va re-suivre le même parcours, donc les sept étapes que l'on vient d'évoquer, si ce n'est que bien entendu ce dossier en toute logique, sera confié à l'instructeur qui avait déjà observé la précédente demande et donc fera l'objet d'un traitement un peu adapté.
Marine, quelles sont les prochaines évolutions ou étapes en matière de certification professionnelle ?
C'est tout d'abord des évolutions en matière de système d'information. Dans ce grand chantier, un des points, c'est la dématérialisation totale de la demande d'enregistrement par les organismes, avec par exemple certains points qui peuvent être automatisés dans le but que cette saisie soit plus fluide et qu'elle soit plus cohérente pour les organismes demandeurs et que le traitement des informations soit simplifié pour les instructeurs et pour l'ensemble des personnes qui regardent les dossiers au sein de la direction. Donc là, on est vraiment dans un point technique qui a vraiment pour but de simplifier les demandes d'enregistrement pour pouvoir se concentrer davantage sur le contenu des demandes et vraiment sur le traitement qualitatif des informations des demandes d'enregistrement. Par exemple, l'analyse pointue du taux d'insertion dans le métier visé en lien avec les problématiques du secteur donné ou du métier donné. Une deuxième évolution, qui n'est pas vraiment une évolution puisque du coup c'est l'exercice qui consiste à éditer une nouvelle liste de métiers émergents ou en particulière évolution. Ce n'est pas une évolution puisque du coup c'est un exercice qui est renouvelé chaque année par la direction de la certification professionnelle. Donc cet exercice a été réalisé fin d'année 2019 et en tout début d'année 2020 pour l'année 2019 et ça sera également le cas pour l'année 2020. Il s'agit encore une fois de répondre à une meilleure adéquation entre les compétences des personnes et les compétences qui sont requises, qui sont demandées par les entreprises, par le marché du travail, puisque du coup, les métiers qui feront partie de cette liste sont jugés en particulière évolution. Cela veut dire qu'il y a un enjeu à ce que les personnes puissent être recrutées rapidement sur ces postes de travail et qu'ils soient reconnus comme compétents, d'où la nécessité d'enregistrer rapidement des certifications au répertoire national des certifications professionnelles. Et ainsi, l'organisme certificateur ne sera pas tenu de justifier de deux promotion, ce qui effectivement est une simplification de la demande d'enregistrement qui permet une meilleure réactivité de l'offre de certification pour remplir les besoins en compétences du marché. C'est le conseil scientifique qui sera chargé d'une partie de cet exercice, notamment puisque ce comité scientifique étudiera et fera des propositions techniques de métiers émergents ou en particulière évolution à la commission de la certification professionnelle et donc pour pouvoir décider d'une nouvelle liste de métiers pour l'année 2020. Les prochaines évolutions par rapport à la direction de la certification professionnelle en 2020, donc c'est aussi le contrôle de la conformité des dossiers enregistrés au répertoire et la réalité de la mise en œuvre. Alors, ça veut dire quoi très concrètement ? Ça veut dire que nous recevons des demandes d'enregistrement dans le cadre du processus qu'a expliqué Goulven. Beaucoup de vérifications sont faites, mais sur la base d'éléments qui sont déclaratifs. Certains ne peuvent être vérifiés de manière concrète. Donc, cette mission de la direction de la certification professionnelle nous permettra finalement de voir si ce qui est enregistré correspond à ce qui est mis en œuvre dans la réalité. Par exemple, pour tout ce qui concerne les modalités d'évaluation et la manière dont les compétences sont regardées dans les épreuves d'évaluation. Une des futures missions qui sera aussi développée par la direction de la certification professionnelle porte sur la mise en correspondance des certifications, notamment au travers des équivalences des blocs de compétences. Ça peut permettre aux personnes de modulariser leur parcours de formation pour pouvoir le raccourcir, par exemple, de pouvoir aussi construire leur parcours professionnel pièce après pièce, donc par exemple en obtenant à un moment donné une validation partielle auprès de tel organisme certificateur, de continuer quelques années après au travers de l'obtention d'un autre bloc de compétences pour enfin avoir la certification et pouvoir faire reconnaître l'ensemble de ses compétences professionnelles.
Merci à vous pour toutes ces informations. On vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt sur les ondes de Radio Compétences.